tabule. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Guten Morgen oder Puschul, oder man kann auch sagen, unter der Sina kann man auch sagen, Shalom. Wie geht's, ihr liebe grosse Ohrenläpple von ihrem Rundum-Sender Judaica Welle 102.9. Alles im Boderit Morgen? Ja, ja. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous susurrer quelques mots dans ma Muttersprache, ça fait du bien dans le dedans de soi. Et aujourd'hui, j'ouvre le robinet des ondes pour inonder vos oreilles, vos tympans de plaisir, celui de vivre un moment authentique sur le fil invisible et porteur qui nous relie. Et quel bonheur d'accueillir un invité pas comme les autres, chansonnier, cabarettiste, comédien, un homme de scène à la voix qui porte et résonne partout où il passe. Tour, je vous l'assure. Avec mon invité surprise, on rit à chaudes larmes avec sa gouaille et ses mimiques inimitables, et son humanité touche le cœur de son chaleureux et fidèle publicum. Bonjour invité surprise Jean-Pierre Schlag, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir dans notre studio. Tu es ici chez toi ?
Ben, bonjour André, bonjour les auditeurs de Judaïka, ouais. Et puis merci pour l'invitation.
Ben, ça me fait plaisir. Comment tu gazouilles dans ton monde Jean-Pierre Schlag ?
Écoute, je gazouille pas trop mal, je dois dire, même très bien.
T'as toujours cette moustache fleurie, hein.
Ah oui, oui, ben oui, mais celle-là, elle fait, c'est la marque de fabrique.
C'est Cove-Pouille, comme ça.
Exactement. Si je, c'est pas ça, c'est que si je l'enlève, moi-même, je me reconnais plus.
Ah, alors, j'imagine, ouais, j'imagine. Voilà. Alors, quelle voix tu vas faire fondre nos micros, là? T'as une voix sombre, de travail. Ça se travaille, une voix? C'est un outil de travail aussi, cette voix?
Ah, carrément, oui. Au début, je m'en étais pas trop rendu compte, je veux dire, parce que, voilà, j'utilisais ma voix un peu n'importe comment. À l'époque des Chili Gamor, par exemple, c'est après que je me suis rendu compte que, bah, effectivement...
T'avais un outil de travail, quoi.
Ça vaut un peu d'argent, dans le sens où ça me permettait d'en vivre, donc oui. Voilà. Et donc, je l'ai un peu cultivé, je l'ai un peu travaillé, j'ai pris des cours de chant beaucoup plus tard, d'ailleurs.
D'accord.
Mais, voilà, et puis... ça me permet, je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent, de rendre hommage à celle qui m'a fait travailler la voix, qui était à l'époque répétitrice à l'Opéra du Rhin, et elle s'appelait Yolande Huiter. Et j'avais coutume de dire que Yolande, elle arrivait à faire chanter une chaise, quand elle arrivait à le faire chanter également, donc c'est très bien.
C'est génial, donc elle t'a tout appris.
Elle m'a tout appris.
Ah, ouais, c'est bien. Mais avant, on va rembobiner un peu ton life, ta vie, tes lèvres. Tu vis chez Elsass à Fonschelige. Tu as grandi à Schiltigheim. En Mekensch, t'as le dos?
Ja, ganz genau. Je vis du Hori, derrière.
Ouais, moi aussi, je viens de Schilig.
Voilà, et c'est là où on s'est croisés quand on était en culot de course à l'époque.
Quand on jouait à Ivanhoe ou à Rintintin.
Voilà, c'est ça.
On s'est peut-être mis un peu sur le nez, non?
C'est possible. Ça a dû se faire. Surtout des boules de neige, parce qu'à l'époque, il y avait encore de la neige.
Ah, il y avait de la neige, ouais.
Il y avait de la neige.
Moi, j'habitais dans le quartier rue de Gamsheim, près de la Comessa, là derrière.
Tout à fait.
Et là-bas, on mettait des igloos et c'était génial, quoi. Tu connais la Comessa, tu te souviens?
Tu penses, j'ai une très belle anecdote sur la Comessa, d'ailleurs, c'est en deux minutes, si tu permets.
Ouais, je t'en prie.
Et à l'époque, on avait retrouvé avec des potes une vieille poussette où on mettait les gosses dedans.
Ah ouais.
Elle était usagée, elle était quasiment naze. Mais on l'a récupérée, on a mis deux manches à balai de part et d'autre.
Mais ça, je m'en souviens.
Voilà, et on descendait le pont du canal.
Du canal.
Et en face, dès que tu arrivais en bas, il y avait le grand portail métallique de la Comessa. Exactement. Et ce portail était souvent ouvert, surtout en été. Et vers midi, un peu avant midi, les ouvriers amenaient ce qu'on appelait les gamelles à l'époque, des espèces de gamelles avec la bouffe dedans, au midi, ils amenaient ça, voilà, à réchauffer. Et ils étaient alignés comme ça sur un manche à balai ou un bâton, grand bâton, et un jour on descend, il devait être midi moins le quart, je ne sais pas, on descend et au lieu de tourner, le bâton casse, et on file tout droit dans ce truc et on emmène toute la bouffe de tous les mecs avec nous, donc on avait des nouilles partout, voilà, les mecs ils ont failli nous tuer, heureusement qu'on courait vite.
C'était presque la grande bouffe, quoi.
C'était la grande bouffe, exactement.
Ah, c'est excellent, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai un souvenir de cette Kerich qu'on descendait, et après on sautait aussi dans le Connell Brook,
oui,
tu te souviens,
ouais,
on sautait du pont, hein, on était un peu inconscient, surtout quand les bateaux bateaux passaient, là, les péniches.
Exactement.
On sautait dans les velles, comme ça.
Voilà, et puis surtout, on grimpait dessus quand on pouvait.
Ouais,
c'était extrêmement inconscient.
T'avais une enfance heureuse là-bas, à Chilticane.
Ah oui, carrément, bien sûr.
Quand il y avait les maraîchers derrière, là. C'est...
Tout à fait. Ouais. C'est ma grand-mère, en fait, qui s'occupait de moi, puisque mes deux parents travaillaient. À la brasserie, ma mère dans une imprimerie, tous les deux à Chilticane, d'aller au boulot en vélo, évidemment. C'était écolo avant l'heure, les gens.
Bien sûr.
Et puis, c'est ma grand-mère, et donc j'étais chez ma grand-mère rue de Lorraine.
Ah ben, j'habitais rue de Gamsheim, c'était juste derrière, quoi.
Voilà, exactement, donc on était voisins, et donc j'ai connu, ma grand-mère était une personne très sévère, mais extrêmement adorable, et voilà, donc c'était plutôt sympa.
Alors, bien sûr, tu parles de ton enfance. Tu jouais aussi sur le metal, on jouait à la guerre des boutons avec Bischheim.
Oui,
on leur mettait un peu sur la tronche.
Absolument. Alors, moi, j'étais vraiment.
Chez Ligue Pêche.
Absolument. Chez Ligue Pêche, comme il dit. Moi, j'étais très embêté parce qu'en fait, ma mère était chiliquoise et mon père était de Bischheim.
Ah, d'accord.
Donc, j'étais entre deux camps.
Entre
eux,
ouais.
Voilà, c'est un peu le drame de toute ma famille, le côté paternel, d'ailleurs. Donc, j'étais sur deux camps. Et voilà, donc, mais oui, puis je m'en mettais là, avec les frondes.
Ouais, je me souviens, c'était génial ça, c'était extraordinaire. Ouais. Et alors parle-moi un petit peu de l'Exen, de ta scolarité. Comment ça s'est passé à l'Exen ? T'étais plutôt un bosseur ou un rêveur ?
Alors ça s'est passé d'abord très vite parce qu'on a sorti assez rapidement. Non, j'étais pas vraiment un bosseur. Moi, j'ai toujours été une feignasse, tu vois. En fait, ça pousse à l'intelligence, la fainéantise. Hein.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais.
que tu es obligé de compenser. Si tu veux pas faire beaucoup, il faut faire bien. Donc, il faut faire vite. Donc, alors, j'étais très attentif pendant les cours. Ça, c'est une qualité que j'ai eue. Je l'applique encore maintenant.
Tu avais aussi M. Nahas comme professeur.
Ah, alors, non. C'est Baby, oui, bien sûr.
Tu te souviens de lui.
Là, c'était...
Il dormait derrière le tableau.
Et en fait, il avait en plus une voix nasillarde parce qu'il avait une blessure de guerre.
Il avait une blessure au palais.
Exactement. Et donc, il m'a dit, « c'était une chose très drôle. » Maintenant, pas comprendre.
Il avait quand même la règle.
Et il avait la règle facile, exactement.
Oh, on les recevait des fois.
Alors,
je pense qu'une de tes matière préférée, c'était peut-être quand même la poésie et la récitation, non ?
Alors, c'était la langue française, les langues de façon générale, mais enfin, surtout la langue française, parce que, en fait, moi, j'ai appris le français à l'école.
On parlait l'alsacien.
J'ai moins parlé l'alsacien jusque pratiquement à l'école maternelle. C'est là qu'on a commencé avec des bribes de bonjour, au revoir, merci madame, et ainsi de suite. Mais après, oui, c'est surtout moi, je me rappelle, mais c'est surtout au collège que ça s'est développé plus tard, à l'Exen toujours.
L'Exen, parce que le collège était juste à côté, de l'autre côté,
Exactement. Et donc, d'ailleurs, je me rappelle une vraie branlée que j'ai eue de mon père, une des rares, c'est qu'il y avait une réunion de parents d'élèves, et moi j'avais une prof d'allemand qui m'adorait, et qui, parce qu'elle avait senti que moi, les langues, c'était mon truc.
C'était ton truc,
voilà. Alors que les maths, pas du tout. Hein. Et donc, elle m'avait fait réciter le monologue de l'avare dans toutes les classes du collège de Schiltigheim. Et réunion parents d'élèves, mon père exceptionnellement va à cette réunion, d'habitude c'était ma mère, et la prof lui dit, vous savez, monsieur Schlagdenhofen, ce qui est mon vrai nom.
Dans le vrai nom.
Voilà, votre fils, vous pouvez faire ce que vous voulez, il finira dans une peau de clown. Mon père est rentré en disant « Oh, dimanche, t'es clown !» Et je m'en suis pris une. Voilà, il avait pris ça au premier degré. Voilà. Mais sinon, les langues. Sinon, le reste, non.
Ouais, mais t'avais une enfance et une vie heureuse quand même à Chilticane, te souviens. Et Kenston, on joue au baby-foot, là.
Absolument.
Tu te souviens,
absolument.
Et au billard.
C'était bien. Ouais, puis il y avait encore un vrai billard.
C'est vrai.
Le snooker.
Écoute, on va écouter une petite musiquette pour se reposer les oreilles qui va te rappeler des bons souvenirs. Vas-y voir, mon Thomas.
Vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale.
Les jolies colonies de vacances, merci maman.
Alors Schlag, comme tout le monde, tu étais aussi en colonie de vacances en été ?
Oui, oui, j'étais puni deux fois. C'est-à-dire, je suis allé deux fois en colonie de vacances, mais assez rapidement, moi, je me suis réorienté vers le scoutisme, en fait. Il y avait j'avais un pote qui était éclaireur unioniste, il m'a dit, viens chez nous, tu verras, c'est comme une colonie de vacances, mais en plus libre. Alors, j'ai dit, ah, ben, si c'est en plus libre, tout de suite, je signe.
C'était pas la même chose que la colonie de vacances.
Ah, non,
c'était
pas du tout.
C'était aussi éducatif, on a appris autre chose.
Ah, si, c'était éducatif, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que, voilà, on apprenait à se débrouiller
dans la forêt.
Voilà. On trimballait une tente.
C'est ça.
Non, c'était super. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de quasi 17 ans, je crois.
Ah ouais. Et donc, tu avais un grade, tu étais gradé ?
Ah bah oui, j'ai fini chef de troupe. Non, chef de troupe.
Chef de section ?
Chef de troupe.
De troupe, ouais. Et alors, tu chantais aussi un kilomètre à pied ?
Ah bah ça, alors là, bien sûr.
Un kilomètre à pied.
Voilà,
les souliers, quoi.
À l'huile, enfin, toute la panoplie.
Puis après, Hugo Frey, Santiago ?
C'était prémonitoire, vraisemblablement.
Et tu l'as connu, tu l'as fréquenté, je crois.
Hugo Frey, oui, Oui, tout à fait. Ouais. J'ai d'ailleurs, en fait, sur l'album que j'ai fait, le dernier que j'ai fait, en fait, j'avais adapté une chanson d'Hugo Frey. Les crayons de couleur.
Ah oui, c'est connu, voilà, ça.
Qu'il a chanté devant Martin Luther King en 66, il me semble, à Paris.
Il a une carrière extraordinaire, ah, lui, cet homme.
Pour moi, c'est le monsieur chanson français.
Exactement. Moi, je l'ai vu à Colmar l'hiver dernier. Il chantait aussi à Moutsik au Dôme.
Tout à fait.
Un concert exceptionnel, quoi, avec des musicaux, mais des gens.
Il a des musiciens de rêve.
Ouais,
en fait.
Il a des musiciens.
Et donc, j'ai eu le plaisir de faire un duo avec lui live sur scène à Olungen, au festival.
Ah oui, Olungen. Ouais.
Voilà, tout à fait. Donc, je faisais sa première partie en vrai. Parce que j'avais adapté cette chanson en alsacien. Jacques Schleff, qui était le directeur de ce merveilleux festival qui n'existe malheureusement plus, Olungen, avait eu l'idée de faire mettre sur la même scène une tête d'affiche nationale, internationale, et on va dire une petite tête d'affiche régionale, pour ensuite, et moi après, j'avais fait monter des jeunes, voilà. Donc ça, c'est une espèce de turnover vers le haut. Et donc j'ai eu le plaisir, l'honneur, le privilège de chanter avec ce monsieur. J'ai d'ailleurs pratiquement loupé l'entrée dans le... parce qu'elle n'avait pas répété, en fait.
On
s'était vu, bonjour, ça va,
c'est quelqu'un d'humble, de simple.
Ah oui, complètement.
Et très intéressant, parce qu'il connaît beaucoup de choses.
Ah, ouais,
moi, je lui avais offert un livre sur la cathédrale, mais la soirée où je l'ai vu, il a beaucoup apprécié.
Oui,
quoi.
Tout à fait. Mais c'est un monsieur très distant, quand même.
C'est
pas le même rapport qu'avec Cabrel, par exemple. C'était un monsieur... Bon, moi, j'étais impressionné, évidemment.
Bien sûr. Mais il devait aussi t'impressionner par toi, aussi. Je pense que t'es trop humble, là.
Je sais pas, mais en tout cas, il a accepté qu'on fasse ce duo, sans me connaître. Il avait juste écouté J'avais envoyé, bien évidemment... même pas lui, d'ailleurs, à son agent. Envoyé le morceau en question qu'on avait enregistré avec Mesikos. Et il a accepté très très gentiment qu'on fasse ce duo ensemble. Après moi j'étais dans mes petites pompes. Et alors j'ai vu quelque chose, et là j'ai vu ce monsieur que je respecte toujours encore, il a 94 ans maintenant.
Il vient de se remarier,
il fait sa tournée d'été, enfin
ouais,
c'est
ouais,
un type
c'est vrai qu'il est très
incroyable.
Actif.
Et alors j'ai vu des choses, alors j'ai vu beaucoup d'artistes qui faisaient chanter leur public, hein. Mais comme lui, j'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'en fait, dans son concert, à un moment donné, les musiciens sortent, des musiciens exceptionnels évidemment, ils sortent, ils restent tout seuls sur scène, ils prennent sa guitare, ils font un accord, blam, et t'as 5000 personnes qui font « Il s'appelle Estubol ».
C'est extraordinaire.
Et il a fait 20 minutes comme ses tubes, Céline et compagnie.
Et c'est la chanson et Céline, elle est géniale.
Il faisait un accord, il chantait une demi-phrase et tout le monde enchaînait. Et il y avait là-dedans des gamins, il y avait des papis, des mamies, vraiment un public de 7 à 77 ans. Et c'était absolument fantastique.
Parle-moi un petit peu de toi, de ton théâtre. Comment tu es venu au théâtre ? Comment c'est arrivé, ça ?
Alors,
c'est avec ton grand-père, non ?
Oui, c'est ça, absolument. Tout à fait. Tiens, mais t'en sais des choses.
Oui, mais je te connais un peu, quand même.
Oui, mais ça, c'est quand même assez particulier. Oui, mon grand-père avait un... Donc, il habitait rue de Lorraine, à Schiltigheim. C'est vers le canal, en fait. Hein. pas loin du canal, pour ceux qui connaissent un peu Schiltigheim. Et il avait là-bas, il était le dernier choucroutier artisanal de Schiltigheim. Hein.
Ah
donc
ouais.
Il avait d'immenses jardins. Et il m'emmenait de temps en temps, il m'emmenait dans ce jardin, etc.
Et c'est un jardin ouvrier ou un...
Oui, oui, c'est un jardin ouvrier. Oui, oui, tout à fait.
Oh, Weitersgärtel.
Oui, voilà, c'est ça. Et au retour, il y avait un resto qui s'appelait Le Tilleul.
Ah bah oui, Le Tilleul.
Voilà, voilà. Et donc, il s'arrêtait là, il prenait un canon, et alors... Il avait eu, comme je me débrouillais bien dans les récitations, les machins, il m'a pris, il me prenait toujours, il me foutait debout sur une table, et puis il me disait, vas-y, alors moi je faisais le clown, là, et lui se faisait payer des canons, donc voilà, il exploitait, avant les Chinois, il exploitait les gosses pour s'abreuver, enfin. Et donc c'est comme ça, et puis alors après, il y a eu des petites pièces de théâtre, bah, comme tous les gens, beaucoup ont fait, hein, le petit lutin dans le... dans le Binnenmarkt, dans la pièce de Noël, etc. Et puis tranquillement... Mais très vite, je crois que je devais avoir 10-11 ans, je savais que c'est ça que je voulais
c'était
faire.
C'était ta voix, c'était ton voilà. truc à toi. Ouais.
Après, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que ben, ça ne se faisait pas. D'ailleurs, je me suis pris une tannée à cause de ça un jour. Immérité, hein. Mais c'est là, quand même une des rares que mon père m'a donnée, je dois dire. Alors, parce que mon père était convoqué à une réunion de parents d'élèves, j'étais au collège, j'avais une prof d'allemand qui m'adorait parce que j'étais passionné par les langues, etc. Notamment le français, l'allemand, etc. Et elle m'a fait déclamer le monologue de l'avare, que apparemment je faisais pas trop mal, dans toutes les classes du collège.
Allemand, en allemand ?
Non, non, en français.
En français, français
ouais, ouais. Ouais. Et puis, arrive cette fameuse journée des parents, mon père y va, exceptionnellement, d'habitude c'était ma mère, et cette prof, mais vraiment, avec une bienveillance absolument incroyable, elle dit à mon père, vous savez, M. Schlagdenhofen, qui est mon vrai nom, M. Schlagdenhofen, vous pourrez faire ce que vous voudrez, votre fils finira dans une peau de clown.
Ah ouais.
Et mon père a pris ça au premier degré, il est rentré, il a dit, ah, dimanche, t'es clown. Et alors il m'a dit, je vais t'apprendre comment fait le clown, tu vois. Voilà.
Et après, bien sûr, c'est une belle histoire quand même. Mmh. Bon, t'as pris une petite claque, mais bon, on en a tous eu de les parents. Hein. Mmh. J'ai pas où soit maladie créée. Après, les années chemise à fleurs, tu as été au café des Anges, je crois, au Lange d'Or.
Même, Lange d'Or, ça s'appelait.
Lange d'Or,
Lange d'Or, oui.
Avec les Chéliquements, c'est ça.
Tout à fait. Donc après, moi, je suis allé, j'ai fait un petit passage au Centre dramatique de l'Est à l'époque où Gignoux était directeur, ce qui est devenu ensuite le TNS. Voilà. Et puis, je fais du théâtre. Voilà. Et on crée un groupe à l'époque avec Christian Winterhalter.
Les Schiliquemer.
Voilà, que je salue au passage.
Il est aussi directeur à un moment à France 3.
Exactement.
Directeur des programmes. Ouais, je me
ensuite,
souviens bien de lui.
Tout à fait. Ouais, ouais. Et on a créé un groupe qui s'appelait Les Schiliquemer. Voilà, ils ont fait la chanson.
Gros succès, hein, ça marchait bien.
Ça a cartonné.
Hein. Ouais, je me souviens.
Mais à l'époque, c'est tout le monde. Hein. Je veux dire, Cypher, Iglesias.
Ouais, tout le monde était là, quoi.
On faisait, alors moi je me rappelle une année dans les années 70, on faisait entre 200 et 250 concerts par an.
Waouh.
Quand on sortait un 33 tours, ça se vendait à plus de 100 000 exemplaires.
Ouais,
je crois que Cypher avait fait une année, je crois qu'un de ses premiers albums, il a fait 180 000, je crois.
Ouais, je me souviens,
comme ça.
Ouais.
C'était monstrueux. Et ouais. Donc, voilà, donc ça marchait.
C'était porteur, le dialecte, hein, l'alsacien.
Complètement, bien sûr.
Ah ouais. Et encore aujourd'hui, c'est un truc qui plaît aux gens, quoi, quand on parle le dialecte.
Ça a quand même beaucoup diminué, on va dire. Hein.
Ouais,
mais à cette époque-là, nous, y avait, les salles étaient pleines, en fait. On remplissait, notamment, ça démarrait, en fait, l'histoire a vraiment démarré. Avec Roger Cypher, bien sûr, qui était le premier à être connu dans la chanson régionale alsacienne. Et ensuite, grâce au professeur Madsen et au Stud Hande,
bien sûr, ouais.
Et donc qui veut dire étudiant en français, mais, voilà, ils ont organisé les premières soirées alsaciennes à la Fac de Lettres. C'est assez étonnant parce qu'en définitive, ce sont les étudiants en lettres, donc notamment allemands d'ailleurs, qui ont lancé tout ce mouvement-là.
Ah ouais, qui étaient demandeurs, qui étaient...
Absolument.
Ouais.
Alors, on avait fait le premier concert dans l'amphi la fac d'Allemagne.
Ah ouais, ouais.
Debout sur les bureaux du prof.
Ah, ah ouais.
Et c'est comme ça que c'est parti, cette histoire-là. Ouais, ouais.
Et tu fais aussi partie de la troupe du Port-Repli.
Alors, Port-Repli, j'ai fait deux saisons, ouais, mais très tardivement.
Avec Germain Muller.
Voilà, j'ai fait les deux dernières.
Ouais, ouais.
J'ai fait 88-89, donc, et 92 ensuite.
La toute dernière, t'étais
ouais.
là.
Ouais, j'ai assisté malheureusement à la dernière soirée de Germain sur scène.
Ouais, ouais.
C'était à Colmar, où il a fait une série d'AVC, en fait, avant le spectacle. Et il a quand même assuré le spectacle, c'était un type exceptionnel.
Un grand monsieur, quoi. Il a fait de la politique, il a fait plein de choses,
oui,
cet homme.
Il a fait, je dirais que si tu regardes un peu les grandes réalisations culturelles à Strasbourg, que ça soit le Filard, que ça soit l'Opéra du Rhin, que ça soit le Maillon, etc. C'est Germain lui. Müller et Plimelin, en fait.
Il a aussi lancé les Bretzel d'or, hein. C'est lui qui... C'est lui.
Alors oui, il a fait partie du comité créateur.
C'était son idée à lui, je crois.
Je ne suis pas sûr. Je me demande si ce n'était pas quelqu'un des DNA qui s'appelait à l'époque. Je ne me souviens plus de son nom. Enfin, en tout cas, il était dans le comité directeur, je me souviens bien
de lui. Tu as déjà une Bretzel d'or?
Oui, j'en ai eu une avec les Schilligemer. Ensuite, j'en ai eu une autre.
Tu en as une deuxième, ah oui.
Avec Roger. Enfin, c'est plutôt le projet, en fait. Hein. C'était les premières tournées de la Choupe que j'avais coproduit avec Roger à l'époque. Ou que Roger a coproduit avec moi, plus précisément. Et là, on a reçu une deuxième Bretzel d'or.
Ouais. Ah oui. Alors, parle-moi un petit peu de tes textes. Comment est ta mémoire? Est-ce que tu travailles ta mémoire? Comment tu fais pour jouer sur scène avec un texte hyper long? Et comment tu te souviens de t'as des mots clés pour travailler ou...
J'ai pas de méthode précise, en fait. La seule, c'est celle qui m'est restée pendant mon seul côté assidu à l'école, je l'applique maintenant sur scène, ou je l'ai appliqué après, mais de manière complètement inconsciente. En fait, j'ai rarement peiné pour faire les devoirs.
Ah ouais.
Parce que, comme j'étais une feignasse, je me suis...
T'avais une bonne mémoire, quoi.
Alors, je me suis fait très attention à ce qui se passe pendant les cours. Comme ça, après, en 5 minutes, c'est plié.
Donc, c'est ça. Ça, c'est quand même une chance d'avoir une grande mémoire comme ça, se souvenir.
Alors, je pense que ça se travaille, mais moi, je ne l'ai pas... En fait, je n'ai pas eu le sentiment de le travailler. C'est venu un peu comme ça, de manière inconsciente. Simplement par confort, en fait. Hein. Donc moi, par exemple, on répète actuellement à la Chouque la nouvelle revue. J'apprends rarement mes textes. Alors, pour les chansons, c'est différent. Parce que c'est plus abstrait, surtout il y a le rythme derrière. Mais pour les sketchs, par exemple, ou les textes, je les apprends sur le plateau.
Ah ouais, tu les apprends
sur le plateau.
Et c'est ancré dans ta tête, tu ne l'oublies pas.
Non, parce que c'est lié au déplacement, et les déplacements, c'est lié aux intentions.
Ouais, c'est ça.
Et dès que tu as les intentions, tu as le texte, en fait. Hein.
Et quand ta femme te fait la liste pour aller au Mammouth faire des courses, tu oublies la moitié.
Voilà, c'est pour ça que j'ai plus de femme.
Maintenant, t'as un cheval, on en parlera un peu plus tard. On va juste écouter un extrait de musique, parce que quelqu'un qui s'occupe de très connu avec qui tu chantes en langue régionale. On va écouter un petit extrait. Vas-y voir, mon cher Thomas.
Ich bin gelaufen nach so von Boten, tut in de Wolke, so haben wir uns getroffen, ich und du. Wie der Metziner Gitarre, sie ist nicht weit gesehen von einer Gare, der Zug voll gespielt der Zug. Du hast gesagt, wenn sie tot sind, sofort kann der Wind Schmetterling weit fort. Auf der ersten Bein laufen wir zu.
Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée,
ich kroche dort weit weg, schon de Ville.
On entendra.
Alors, tu chantes avec Cabrel, Jesus Moriarty, c'est incroyable.
Oui, je sais, c'est, j'y crois encore pas aujourd'hui, d'ailleurs, je veux dire.
C'est que mérité, attends.
Oui,
mais bien sûr.
Alors, en tout cas, je sais qu'il m'estime assez bien et qu'il estime beaucoup les langues régionales.
Régionales, d'ailleurs, il reprend. Je crois qu'il y a une actualité avec les langues régionales.
Absolument,
hein.
Absolument. Donc, ça fait des années, hein, en fait, qu'il travaille là-dessus. Moi, je l'ai rencontré grâce à un ami commun, qui s'appelle Jean Bonnefond, qui est un peu qui est un chanteur occitan en langue occitane, avec un groupe qui s'appelle Peragouda, et qui est un ami intime, alors lui de Cabrel, vraiment, il est parrain d'une des filles, etc. Et il est surtout président d'une association que Cabrel a lancée et qui est située à Stafford, là où habite.
Là où il habite.
Voilà, et qui s'appelle Les Voix du Sud. Et rencontre d'Astafor. Donc, il fait rencontrer des chanteurs, des auteurs, des compositeurs, des interprètes qui sont déjà un petit peu connus, ou du moins qui ont déjà un parcours, et ensemble, en l'espace de 10 ou 15 jours, ils écrivent une trentaine de chansons.
Ah, voilà.
Donc
ouais.
C'est assez, assez émulant, ou
émulsifiant.
Voilà. Donc c'est émulsifiant.
Et t'as une petite anecdote sur Cabrel, il est comment dans la. Il est cool comme garçon.
Déjà, le type qui accepte de chanter sur mon album, un mec qui est complètement inconnu. Nationalement, c'est déjà pas mal. Et mais Jean Bonnefond a une définition de Cabrel que je trouve extrêmement d'ailleurs pertinente et d'autre part très, très amusante. Il dit Francis, il est d'une banalité presque affligeante. c'est vrai, parce que tu t'attends quand même, c'est une star.
C'est une grande star. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il roule les R comme ça. Quand il chante comme ça, il a une manière de chanter.
Je crois que c'est ça qui est accrocheur. Alors, exactement. Il met l'accent tonique pas là où il devrait être.
Ah ouais.
Par exemple.
Oui, c'est ça.
Par exemple.
C'est ce qui a fait son succès aussi.
Par exemple.
Ouais, c'est ça.
Ça fait son succès. Et c'est ce qui fait que quand il chante Bob Dylan, c'est. Parce que Bob Dylan fait exactement la même chose en anglais. L'accent tonique et le temps fort, il n'est pas là où il doit être. Donc, du coup, et c'est pour ça qu'il est fan aussi de Dylan. Il a d'ailleurs fait un album récap Dylan, en fait. Où il chante toutes les chansons, enfin des chansons de Dylan, mais c'est un type extraordinaire. Moi, j'ai eu l'immense bonheur, plaisir, privilège, honneur, j'ai même pas assez de qualificatifs que ce truc se passe. D'ailleurs, c'est passé de manière assez incroyable en fait. Hein. Je fais une version courte. Ils viennent à Strasbourg pour remettre un prix justement des rencontres d'Astafor. Donc lui et Jean Bonnefond et une délégation d'Astafor, on se rencontre, on se croise, on passe une soirée ensemble grâce à Jacques Schlepp aussi, je dois le redire, et au Clamartzel, et puis on sympathise, voilà, il me trouve marrant, je le trouve
génial. Ah oui, t'es drôle, t'es rigolo quand même, écoute.
Voilà,
quand je te vois la chouque, moi je suis fan, je ris, tu as fait des trucs avec un boucher là,
je me souviens,
c'était génial.
Dès qu'il y a un boucher dans un sketch, c'est moi.
C'était très chouette. Ouais. En tout cas, le temps passe, on n'a même pas eu le temps de parler de ton cheval, parce que tu es un cowboy, tu as regardé le Winnetou quand tu étais petit, sans doute, à la télévision allemande.
Mon père avait toute la collection de Karl May, tu vois, donc du coup, ouais.
Mais tu reviendras ici me parler de tout ça parce que là, regarde, on a fait 28 minutes. Ça passe tellement vite. Ouais, en tout cas, je te remercie de venir.
Merci
et ton actualité, tu répètes à la Chouque en ce moment.
Absolument. Donc, la première de la revue, c'est le 14 novembre.
Novembre. Bah, c'est tout de suite, c'est demain.
On viendra
t'applaudir. En tout cas, merci d'être venu. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir ici, surtout qu'on était les terrains de jeu. On jouait à Ratata ensemble à l'école. Merci, Schlag.
Merci à toi, André.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit.